Voilà, c'est une joie de nous retrouver. C'est une. Je rappelle que pour ceux qui le veulent, il y a un pique-nique après le culte avec nos amis Aurélie et Romain, donc sur l'aire de jeu de Lautenbach. Donc il fait beau, c'est un super temps. Si vous n'aviez rien prévu, c'est peut-être l'occasion ou de manger là-bas ou de le rejoindre. Voilà, ça c'est pour célébrer ensemble ces temps. Ce matin, j'avais vraiment à cœur de parler d'un ministère tout à fait particulier. C'est un ministère, vous savez, on parle beaucoup des ministères. L'Église est bâtie sur le ministère des apôtres, des prophètes. Et puis, voilà, on parle de ministère, ça veut dire service. Mais il y en a un tout à fait particulier, étonnant, parce que, en fait, c'est le ministère de chacun. C'est le ministère d'encouragement. Le ministère d'encouragement. Et j'aimerais vraiment parler, c'est ce mot très fort qui revient dans mon cœur. Témoignage qu'on a entendu de Denis tout à l'heure, découragement dans la vie, les claques, hop, une personne, et hop, il ressort encouragé. Le ministère d'encouragement, et j'aimerais vraiment qu'on approfondisse avec les Écritures ce que ça veut dire et ce que c'est pour nous. Et bien sûr, c'est quelque chose à mettre en pratique, chacun d'entre nous. Alors, il y a un passage dans Ésaïe 35, verset 3-4, il est dit « Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites « Prenez courage, n'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir ». Il y a plein d'écritures comme ça. Ça, c'est pour Israël, c'est pour son Église. Mais Dieu est un Dieu d'encouragement. Alors, le besoin d'encouragement, il est général. Dans la vie chrétienne, on l'a entendu encore, il y a des moments de découragement. Et il faut pas. C'est pas une question de maturité ou d'immaturité. C'est une question que tout le monde y passe. Hein, c'est tout le monde y passe. Moment de découragement. Alors. Il y a les découragements tout simples, c'est la fatigue, une expérience difficile, voyez. Il y a des découragements un peu plus délicats de périodes de déprime et de dépression. Les plus grands hommes de Dieu l'ont vécu. Vous prenez dans la Bible, Élie qui a des grandes victoires, tout d'un coup il est dans la dépression, découragé, il n'en peut plus. Il se cache dans une caverne, il dit « Seigneur, je veux mourir ». Des hommes de Dieu, quoi. Et puis, là le Seigneur lui dit ben, « Tu vas aller oindre ». Ce jeune roi à ta place, Élisée comme prophète, et puis un roi. Tu vas plus penser à toi, tu vas penser aux autres, et tu vas bénir les autres. Et ça a donné un sens à sa vie, ça l'a relevé. Donc on voit que c'est pas une, vous voyez, le découragement, même la dépression, parfois, sont des chemins par lesquels on passe, et c'est là qu'on a besoin d'aide et d'encouragement. Et Dieu, on voit, il l'encourage toujours, et on verra qu'il l'encourage pas toujours de façon directe, mais il l'encourage pas en envoyant des anges, en envoyant des... Oui, mais il l'encourage en envoyant ses enfants dans la rue, dans telle rue, à tel moment, etc. Et donc, il veut faire de nous des ministères d'encouragement. Il y a une autre source de découragement qui est plus subtile et qui est liée souvent à la qualité de la vision que nous avons. Quand on connaît le Seigneur, Jésus, quand on connaît ce qu'il veut faire, son royaume, qu'il veut faire d'un désert un jardin, qu'il veut restaurer un pays, qu'il veut amener la paix, qu'il veut des relations fraternelles, mutuelles, de saines, et puis qu'on voit par quoi la distance qu'il y a avec notre réalité de tous les jours, nos relations de tous les jours, parfois nos échecs, cette tension entre une vision du royaume, Seigneur, que ton règne vienne, voyez, on a vu quelque chose, on a soif de ce Jésus, et puis tout d'un coup, on se rend compte de nos propres échecs des autres, des situations, etc. Et la tension entre les deux fait qu'on peut être découragé. Donc, voyez, c'est pas, le découragement peut venir justement de la qualité d'une vision que tu as. Et quand imaginez-vous Jésus, la vision c'est de sauver l'humanité, et puis ça commence avec 12 disciples un peu difficiles, un gars qui le trahit, enfin la galère quoi, des gens religieux, qui sait qui est le plus grand. Enfin, je veux dire, il avait vraiment de quoi être découragé plein de fois. Donc on veut être attentif parce que en tant qu'Église, en tant que famille, on est appelé à vivre quelque chose que Dieu a prévu que l'on vive. Et ça demande de persévérer et ça demande d'aller jusqu'au bout du mandat et du rêve que Dieu a donné. Et donc, ça demande de l'encouragement. Alors déjà, le premier fondement du ministère d'encouragement, c'est de comprendre que Dieu, c'est un Dieu qui encourage. Hein? On dit, Dieu est amour, Dieu il est la vérité, Dieu, etc. Dieu est saint, mais Dieu, il est l'encouragement même. Et on regarde par rapport à Abraham, souvent, Dieu lui dit, je suis avec toi, ne crains pas. Combien de fois il y a ne crains pas hein, dans la Bible? 360 fois, je crois. Deutéronome 31, l'Éternel donne à Josué, donc il parle de Josué, l'homme, mais lisons-le comme église aussi. Hein. Il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. Donc prends courage, fortifie-toi. Josué 1, verset 5, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'étais à Moïse. Je te délaisserai pas, je t'abandonnerai pas. Pourquoi Dieu lui dit ça? Parce qu'il sait qu'il y aura des périodes où il va se sentir délaissé et abandonné. Donc, du coup, Dieu dit, je t'abandonnerai pas, je suis avec toi. Voilà, ça revient souvent. Et pour Jésus, vous avez, si on regarde l'histoire de Jésus, je suis étonné de relire combien, à chaque fois qu'il intervient avec quelqu'un, il commence par l'encouragement. Juste quelques versets. Matthieu 9, 2. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, il ne lui dit pas, tes péchés sont pardonnés, go. Il lui dit, prends courage. Il commence par ça. Prends courage. Et ensuite, tes péchés sont pardonnés. Et ensuite, go, lève-toi. Et toi. Ça commence par l'encouragement. Matthieu 9, 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Marc 10, 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Donc Jésus savait très bien que la foi, ça ne peut pas grandir sur un terrain de découragement. Et c'est vrai pour nous tous. La foi, c'est très difficile, quand tu es découragé, de capter la foi. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est pas possible. Ça ne marche pas, ça ne prend pas. Comme disait Sandro tout à l'heure, on n'est pas dans la même longueur d'onde. Quoi. On ne capte pas. Il y a un truc qui... Donc Dieu veut nous encourager. Et même après la mort de Jésus et sa résurrection, il est venu auprès de ses disciples. Et puis les futurs disciples, comme l'apôtre Paul... L'apôtre Paul, il lui dit, acte 23, prends courage, prends courage. Donc régulièrement, on ne va pas faire toutes les écritures, mais le caractère de Dieu, c'est un caractère qui encourage. Vous voyez, parfois on peut penser que c'est celui qui met le doigt sur ce qui ne va pas, tout ça. Je peux vous dire que c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance, ce n'est pas la condamnation, c'est la bonté. Et dans la bonté de Dieu, il est toujours à pointer son amour sur nous, c'est possible, tu vas y arriver, etc. Ça, c'est le caractère de Dieu. Et quand on se laisse toucher par cette bonté, quand on commence à être encouragé, le vieux manteau de découragement tombe. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, il faut lâcher le découragement, il ne faut pas que tu déprimes, ça ne sert à rien de lui dire, voilà, ça ne va pas l'aider. Mais par contre, s'il sent l'encouragement, le vieux manteau va tomber. Donc, l'Église, c'est un lieu où on veut vivre le royaume. Et le royaume est appelé à sortir, bien sûr, de l'Église. Donc le royaume, c'est une culture. La culture de la grâce, c'est une culture de prophétique, c'est une culture de l'encouragement. La culture du royaume, c'est une culture de l'encouragement. La grâce que Dieu nous donne, les talents, les dons, le premier fondement à comprendre pour l'encouragement, c'est que tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Quand on a commencé à comprendre ça, on rentre dans une dynamique d'encouragement, voyez. C'est pas pour nous. Et voilà, donc cette culture de la grâce, c'est à l'opposé de la culture de la condamnation. C'est à l'opposé. C'est à l'opposé de la culture des mérites. Et on peut en voir où on en est au niveau de la grâce, dans quel est notre regard sur quelqu'un qui pêche, sur quelqu'un qui est mal. C'est quoi le regard qu'on a, voyez. Si c'est la condamnation, c'est qu'on n'a rien compris au niveau de cette culture de la grâce et on va jamais pouvoir encourager quelqu'un. Comme ça, vous voyez. Donc, Jésus, lorsque je crois en Jésus, le processus commence. C'est-à-dire, le processus du salut, du plein salut. Mais c'est que lorsque je réalise, écoutez bien ça, que Jésus croit en moi, que là, on commence à faire la différence. C'est une chose de croire en Jésus. C'en est une autre de croire que Jésus croit en nous. Ça parle de l'identité. Et quand on commence à voir ce regard de Dieu qui croit en nous, alors là, on devient des ministères d'encouragement. Vraiment. Donc ça, c'est bien de croire en Jésus, mais l'étape d'après, c'est de comprendre que Jésus, il croit en nous. Et ça, mon ami, quand on a réalisé, moi je pense un peu à l'apôtre Pierre qui avait renié Jésus, tout ça, et il se retrouve là, et Jésus, qui aucune condamnation, il lui dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Voilà. Mais oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Eh bien, il lui confie une mission. Paie mes brebis. Aucune condamnation, rien du tout. Hop, au travail. Relève-toi. Paie mes brebis. Ça veut dire, entre autres, encourage-les, nourris-les. Quelqu'un qui disait, Simone Veil, c'est une femme, une Française, une philosophe française, c'est pas la ministre. Elle disait, élever quelqu'un, elle parle de l'éducation, c'est d'abord l'élever à ses propres yeux. Eh bien, je dirais, le ministère d'encouragement, c'est la capacité de voir l'autre avec les yeux de Dieu. Voyez. Et c'est quelqu'un qu'on élève. Donc, tout ce qui est religion, religieux, condamne. La culture de la grâce, elle encourage. La grâce de Dieu me fait poser la question, comment faire pour que les autres autour de moi rentrent dans leur appel, dans leur destinée, comment faire? Et ça, c'est le souci en tant qu'église locale, voyez. En tant qu'église locale, le souci, c'est se dire comment chacun peut vraiment manifester et grandir dans les dons si différents que Dieu lui a donnés. Et ça, c'est l'obsession, quoi. C'est une église en santé, c'est quand chacun, voilà, a ce regard de Dieu et ce regard de l'autre. Ce frère qui dit, tu peux y arriver, voilà ce que je vois chez toi, voilà ce que je vois chez toi, voilà le talent que je vois, vas-y, voyez. Donc voilà, c'est une culture prophétique. Hein, tout à l'heure, on a parlé, l'introduction nous a dit, Seigneur, illumine les yeux de notre cœur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la culture prophétique. Et il y a un exemple que j'aimerais donner dans les Écritures, c'est l'exemple magistral d'un homme dans les Actes des Apôtres, il s'appelait Barnabas. Barnabas. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui me touche, et on va juste voir quelques points de sa vie, mais c'est énorme. C'est énorme. Regardez. Déjà Barnabas. Déjà le nom, il est bien barré, lui. Il y a des noms qui aident comme ça. Ça veut dire, alors Bar, c'est fils de, Nabas, encouragement. Alors déjà, il était bien, voilà. Fils d'encouragement. Barnabas. Alors c'est toute une destinée, les noms, dans la Bible. Parce qu'au début, il s'appelait Joseph. On voit ça dans Actes chapitre 4, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, encouragement. Voyez, ça c'est intéressant. Les apôtres, ils sont là, à la limite, ils s'en foutent de ton nom. Tu vois, ils disent non, tu t'appelles Barnabas. C'était peut-être la culture. Imaginez aujourd'hui, tu fais la gueule là, non, mais tu es appelé fils d'encouragement là. Tu sais que tu es appelé à ça. Voyez, tu condamnes tout le monde, là, mais rappelle-toi, tu es appelé à encourager tout le monde. Nous sommes tous appelés à être des Barnabas. Et dans Acte 4, il est dit une caractéristique de lui, donc ça fait fils d'exhortation, il était lévite. Alors les lévites, la tribu des lévites, c'était quoi la caractéristique? Allez-y là, les retours. Hein, enseignement et puis d'autres choses. Louange, adoration, enseignement. Hein, les lévites, c'est le ministère adoration devant Dieu. Et enseignement. Eh bien, ça, donc connaissance de la parole, un minimum. Pour un ministère d'encouragement, il faut un peu connaître sa Bible, en fait. Ça aide quand on encourage. C'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des gens qui sont même pas chrétiens, mais qui encouragent. C'est formidable. On devrait prendre des leçons parfois. Mais quand on connaît sa Bible, c'est un peu mieux. Ça peut aider, hein, parce que le Saint-Esprit va prendre de cette parole et il va faire de nous des ministères d'encouragement. Alors, lévite, adorateur, quand on adore Dieu comme ce matin, ça débouche des pierres. On cultive quelque chose du ciel, l'adoration. Ça cultive quelque chose du ciel. C'est plus facile d'encourager quand on est des adorateurs. Hein. Quand on est des râleurs, c'est plus dur en fait. C'est plus dur. Tu es râleur et puis tu râles tout le temps, tu te plains tout le temps et tu dis mais il faut que j'encourage. Mais non, ça ne marche pas comme ça. On commence par adorer Dieu, on l'adore, on l'aime, on lui dit qu'on l'aime, qu'on a besoin de lui. On se nourrit de ce pain et du coup ça commence à venir. Voilà, donc ici, il y a des Barnabas, je pense, Barnabas Beck. Vous connaissez Barnabas Beck? Barnabas Pascasio, Barnabas Ben Sadi, Barnabas Lehman. Nous avons beaucoup de Barnabas. Et je crois que c'est quelque chose qui est à multiplier au milieu de nous. Acte 9, versets 21 à 31. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul, tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient. Il venait de persécuter tous les chrétiens, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, s'exprimer en toute assurance au nom du Seigneur. Alors là, c'est fort quand même. Un persécuteur de l'Église qui a mis les chrétiens en prison, etc. Il était connu, Saül. Et puis alors, Dieu dit à Barnabas, tu vas le prendre et tu vas t'en occuper. Donc déjà là, il faut avoir une vision un peu... pas regarder avec les yeux de la chair, il faut regarder avec les yeux de l'esprit. Et imaginez-vous qu'il n'y aurait pas eu Barnabas, et il n'y aurait pas eu de Paul. D'accord ? Le ministère de Paul a démarré par une vision de Jésus, mais cette vision de Jésus, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il y ait un ministère d'encouragement, Barnabas, qui croit dans ce gars-là, et qui croit que ça peut devenir un champion. Pourquoi il n'y a pas beaucoup parfois de champions dans l'Église du Seigneur ? C'est parce qu'il manque des Barnabas qui croient qu'il y a des champions. Et nous avons tous, les enfants les plus petits aux plus grands, il y a tous la capacité, en tout cas la vocation, de devenir des champions de Dieu. Donc quand tu es un Barnabas, tu accueilles des gens que personne d'autre n'oserait accueillir, comme il l'a fait chez lui. Donc alors Barnabas, il continue. Il intègre Paul dans l'équipe, et puis on voit que Paul, il discute, il est à l'aise. Pourquoi il est à l'aise, Paul ? Dès le début, parce qu'il a un ami. Un ami qui croit en lui, un ami qui l'encourage. Et donc Paul a grandi à l'ombre de cet ami au début, et puis ensuite il a pu batailler. Alors acte 9, on continue. Acte 9, Barnabas est parti. Et on voit que Paul témoigne avec assurance de Jésus. Il attire la haine des religieux, on complote de le faire prisonnier, de le tuer. Et alors les frères, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Il faut l'évacuer, ce gars. Il faut l'évacuer parce qu'il est tout le monde le hait, il fait trop de bazar. Donc il faut le mettre un peu au vert. Voilà. Acte 11, on continue. Barnabas revient sur la scène. Ça, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'Église là actuellement, dans cette période-là ? Eh bien, il y a un réveil. Il y a des gens qui viennent de Chypre, de Cyrène. Ils sont venus à Antioche. Il y a la parole du Seigneur qui est proclamée, la main du Seigneur qui est avec eux. Il y a un réveil qui se passe. Mais Paul, il est loin, il n'est pas là. Il a été, pas éjecté, mais on l'a mis un peu au large. Il n'est pas dans tout ça. Et alors, ce qui se passe, le bruit vient aux membres de l'église de Jérusalem qui a un réveil à Antioche, tout ça. Alors, ils envoient Barnabas. Et ça, ce qui me touche, vous voyez, quand ils envoient Barnabas. Et là, Barnabas, dans ce réveil, il se rappelle Paul. Et il dit, mais il faut qu'il soit là. Il faut qu'il participe. Il faut qu'il jouisse de ce que Dieu fait. Acte 11, lorsqu'il fut arrivé, il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta à tous rester le cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit de foi. Et une foule nombreuse vient. Et acte 11, verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Donc, vous voyez, il a cet encouragement, on voit que Dieu agit. Je vais chercher celui qui est mon ami et qui est un peu sur la touche là, et je vais le ramener. Et ça a permis à Paul de rebondir. C'est quand même extraordinaire de rebondir. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. Voyez, la grâce de Dieu, si on laisse Dieu prendre le contrôle et on devient ces Barnabas qui encouragent, eh bien on lève ces Paul. Alors, quelqu'un disait, c'est un pasteur, je me rappelle, il disait, il faut barnabasser les gens. Il ne faut pas les tabasser, il faut les barnabasser. C'est pas pareil. Donc, nous sommes appelés à encourager, barnabasser les gens. jusqu'à ce qu'ils soient encouragés. Dans cet appel de Dieu qui lève les autres, qui encourage, une seule parole parfois peut suffire. Il n'y a pas besoin d'un grand ministère, une seule parole. Je me rappelle, moi, un événement absolument étonnant, peut-être certains le connaissent. C'était en 1985, nous étions un tout petit groupe pour porter le projet d'école et c'était à Pâques. Et à Pâques, on nous demandait, au niveau de l'éducation nationale, il fallait se positionner pour l'année prochaine. Mais l'année prochaine, on disait, mais il y aura une école. Mais il n'y avait rien encore, ni argent, ni locaux, ni rien. Et donc avec Manuela, on était un matin, on débouche le courrier, on voit le courrier. Et dans le courrier, deux propositions d'emploi. Moi, professeur de philosophie à Jeanne d'Arc, Manuela espagnol, au même lycée privé de Jeanne d'Arc à Mulhouse. Et on était là avec ces belles propositions. Qu'est-ce qu'on fait ? Seigneur, il y a un projet d'école pour septembre, mais il n'y a encore rien. Peut-être il serait sage quand... Vous voyez ? Donc là, on était vraiment, je dirais, dans l'incertitude. Un coup de fil, un seul coup de fil, un futur papa d'élève nous appelle. À ce moment-là, on avait le courrier sur la table. Il nous dit, j'ai à cœur de vous appeler. Et de dire, le projet que vous avez, c'est un projet de Dieu. Tenez bon. Tout immédiatement, on a fermé les enveloppes. On a dit, Seigneur, merci. Une seule parole. Un encouragement qui vient à propos, vous voyez. Ça peut changer une destinée. En tout cas, ça a changé notre destinée. Et la destinée de beaucoup. Un coup de fil. Vous voyez, parfois, il ne faut pas grand-chose. Le ministère d'encouragement, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas un truc énorme. C'est à la portée de tout le monde. Et dans Acte 13, on voit le tandem Paul-Barnabas, un tandem gagnant. Hein, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci, etc. Ça, c'est extraordinaire. Cette amitié qui était là, ce regard mutuel, cet honneur mutuel, qui a permis de faire de cette équipe une merveilleuse équipe. Et pourtant, plus tard, Paul aura vécu des sacrés découragements. Je donne juste quelques versets. 2 Corinthiens 7, 5. C'est Paul qui parle. Nous étions pressés de toutes parts. Lutte au dehors, crainte au dedans. 2 Corinthiens 1, 8. Accablés à l'extrême, au-delà de mes forces, de telle sorte que je désespérais même de conserver la vie. Ça, c'est un passage chez Paul de profond découragement. Et un jour, quand il a repris l'église de Corinthe, parce qu'il y avait de la fornication, il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi au niveau comportement sexuel, entre autres et autres, il les a repris, mais il s'est dit, mais ils vont plus m'aimer, ils vont me rejeter. Hein, Et alors là, il y a un homme qui s'est levé, un jeune homme, un profond ministère d'encouragement, ce jeune homme, qui a relevé Paul. C'est Tite. Ce jeune garçon, Tite. Et dans 2 Corinthiens 7, 6, il est dit « Mon Dieu qui console les humbles nous a consolés. » C'est Paul qui parle par l'arrivée de Tite. Ce jeune homme, il a senti que Paul vacillait, qu'il était découragé et il est venu en Macédoine avec un esprit d'encouragement tel que l'apôtre Paul témoigne que son cœur non seulement a été consolé mais qu'il a débordé de joie. Ça, on trouve ça dans le 2 Corinthiens 7, 4. Je suis rempli de consolation, je déborde de joie au milieu de toute l'affliction. Les situations n'avaient pas changé, mais c'est lui qui avait changé. Parce qu'un jeune homme, Tite, avait fait le voyage pour l'encourager. Ça, je crois que l'évangile qui est venu en Europe est dû à des gens comme Barnabas et comme Tite. Et il y en a un autre aussi, un beau ministère d'encouragement, c'est dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 16-18, « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes, au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé, et combien de services il m'a rendu à Éphèse. » Donc Onésiphore, c'était un des fils spirituels de Paul, vous voyez, et puis alors que Paul était condamné, emprisonné, il l'a cherché jusqu'à ce qu'il trouve. Et la ville de Rome, c'est pas rien quand même. Il fallait chercher cet ami, chercher Paul, parce qu'on veut l'encourager. Je dois l'encourager. Mon frère est meurtri, il a souffert, il a le naufrage, entre autres. Il faut que j'aille l'encourager. Et en fait, le ministère d'encouragement, ça inclut aussi de chercher les gens. De chercher les gens. Et ça, c'est les gens qui souffrent. Et je pense que c'est quelque chose que Dieu veut nous apprendre en tant qu'église locale aussi. À pas seulement être dans la spontanéité, mais à dire, Seigneur, qui c'est qui a besoin d'encouragement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on ne voit plus et qui a peut-être besoin d'aide? Voilà. Et puis, l'autre exemple que vous connaissez dans les Écritures, c'est dans l'Ancien Testament, c'est David, encouragé par qui d'après vous? C'est qui a encouragé le roi David? Le jeune, Jonathan. Jonathan. David a été pourchassé par le roi Saül, il ne savait pas s'il allait vivre. Il était exténué, souffrant, forcé de fuir, plus de logement, plus d'habitation, plus rien. Et là, l'ami de David, Jonathan, vient le voir à ce point crucial. Et je lis 1 Samuel 23. « Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et se rendit vers David. Pour affermir son courage en Dieu, il lui dit, « Sois sans crainte, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai avec toi. » Tu régneras. Il lui a rappelé quoi? Sa vocation, sa destinée. Dans ce moment tragique où David pouvait tout lâcher, Jonathan l'a encouragé. Alors, voyez, la question c'est pourquoi parfois on passe par des découragements? Et Paul, il a compris une chose. On le voit dans 2 Corinthiens 1, 6. Si nous sommes affligés, dit-il, et il vit ça après bien des expériences, c'est pour votre consolation et votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Bref, il dit, si moi-même j'ai été découragé, c'est pour comprendre le découragement des autres et pour pouvoir les encourager. Le but du découragement, c'est qu'on devienne des instruments d'encouragement. Et quelqu'un qui est passé par le découragement a une autorité pour parler bien plus grande que celui qui a une vie au top sans arrêt, infranchissable, inatteignable. Voyez, il y a des martiens comme ça. Donc on dit, c'est pas pour nous. Mais le gars qui a galéré, qui a vécu quelque chose de dur, un vrai découragement, quand il se met à côté de celui qui est découragé, je peux t'assurer que ça peut changer la donne. Et donc Paul a compris ça. Dieu utilise mes épreuves pour m'enseigner les voies de l'encouragement. Ça, c'est vraiment une révélation de l'Esprit qu'il a eue et qu'il traduit dans 2 Corinthiens. Vous voyez, donc le Saint-Esprit, il s'apprête à rassurer nos âmes et à guérir au travers, parfois, bien, quand on est passé par des épreuves, pour qu'on puisse aller vers les autres. Et vous savez, quand on est brisé un peu par des épreuves, ça se sent. Il y a un parfum qui se sent. Et les ministères qu'on rencontre, qui ont été brisés, il y a une odeur particulière, il y a un parfum particulier. Ils donnent jamais des leçons aux autres, par exemple. Les donneurs de leçons, ce sont ceux qui ne sont jamais passés par le brisement. Et fais attention, parce que si tu es donneur de leçons, il y a un jour, tu vas être à terre pour que tu ne donnes plus de leçons aux autres. Mais par contre, tu les aimes et tu les encourages. Et ça, Dieu permet, voyez, ce découragement afin qu'on encourage d'autres. Et Élie, le prophète Élie, découragé, il part avec une mission de oindre Élisée, de oindre le roi. Et il a été la bénédiction pour une nation entière. Une nation entière, alors qu'il était tellement découragé. Donc, voyez, mes amis, soyons les Barnabas, soyons les Tite, soyons les Onésiphores, et croyons que, alors qu'on encourage quelqu'un, je dis souvent beaucoup, je suis sûr que vous avez fait l'expérience, vous encouragez quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, qu'est-ce qu'on est soi-même encouragé? Il y a un truc pas possible. Hein. C'est comme quand on témoigne de Jésus à quelqu'un qui ne le connaît pas, il y a quelque chose qui vient, il y a une force, il y a une joie qui est là, qui est absolument remplacée par rien d'autre. Et bien c'est pareil quand tu encourages. Il y a quelque chose. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On se referme sur soi, on se plaint sur soi, on dit mais je ne peux pas encourager parce que si je ne suis pas encouragé moi-même, et puis notre cœur se durcit et ce n'est pas simple. Alors voilà, commençons à encourager. commence à encourager les autres. Et dans le devoir que je vous donne de la semaine qui vient, alors déjà les maris qui êtes là, ben c'est la fête des mères, bien sûr. Donc encouragez vos femmes, quoi. Par exemple, ça commence par là. Voilà, je dis ça, ouais, j'ai ma femme qui est là, hein, je pèse les mots, hein. Enfin, attention à ce qu'on dit, mais je crois qu'on est vraiment appelé à encourager, vraiment appelé à encourager. Et puis, voilà, demandez au Seigneur, qui c'est que je pourrais encourager aujourd'hui, dans la semaine qui vient, qui c'est que je pourrais encourager. Et vous voyez, quand on était avec nos frères juifs, au Struthof, c'était cette parole, consolez mon peuple, la présence, l'amour simplement, parfois on n'a rien à dire, on est appelé à encourager tous ceux qui sont autour de nous, les esprits abattus. Amen. Voilà, c'était tout simple, hein, ce que j'avais à partager. Mais rappelle-toi, tu crois en Jésus, c'est bien, mais crois en Jésus ce que tu vois que Jésus, il croit en toi, il mise sur toi, il attend à ce que tu encourages toi aussi. Seigneur, merci pour ces ministères de Barnabas, de Tite, d'Osénifore, de Jonathan, qui ont permis de lever des champions de Dieu. Et nous croyons qu'il y a beaucoup de champions au milieu de nous et qu'ils ont besoin de tellement d'encouragement, Seigneur. Alors, tu es un Dieu qui encourage. Et c'est vrai que parfois, on peut se fortifier seul avec toi. Et tu nous encourages dans le cœur à cœur. Mais tu aimerais tellement qu'on encourage de façon physique, en nous voyant, en nous parlant les uns sur les autres, en priant les uns pour les autres, en parlant des paroles de bénédiction et de grâce les uns sur les autres, sur nos enfants en particulier aussi. Seigneur, que la culture du ciel, cette culture de l'encouragement, permette en tant qu'église locale d'atteindre les objectifs et les missions que tu nous as données. Qu'aucun esprit de découragement n'arrête sur notre route et qu'on puisse, comme Néhémie, achever la muraille, la construction de la muraille, toucher la ville, et est une bénédiction pour ce pays. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, les amis.